voix nue. Toute cette semaine, France Culture rediffuse la rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. Ce soir, l'enfance à Paris.
Charles Aznavour, qu'est-ce que ce bouillon de culture que représente votre famille, en quoi ça va se couler dans la culture française?
Ça se fait tout à fait naturellement, sans que je m'en rende compte, sans que personne ne s'en rende compte, mais on oublie quand même qu'il y a eu beaucoup de, et même de français purs, de souches, qui ont été très influencés par les cultures étrangères, que ce soit des écrivains ou des poètes. Victor Hugo.
Oui, les orientales.
Victor Hugo d'une part, les lettres persanes d'autre part, Loti d'autre part, en fait, etc. Il y a beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a qui râlent après l'immigration, mais jamais ils ne râlent d'après la musique et la poésie. C'est-à-dire que c'est une belle ouverture, parce qu'on y arrivera petit à petit à accepter l'autre, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion. Il faut aussi que le coloré et le religieux acceptent le fait qu'il est dans un pays laïque et qu'il a une chance extraordinaire de se trouver ici, parce que là-bas, c'est pas pareil. C'est pas la liberté, c'est rien, c'est la pauvreté.
Alors vous avez failli être américain, en fait,
à
peu de choses.
Dieu merci, je ne l'ai pas été. Oh, aujourd'hui,
c'est pas gentil pour les Américains.
Non, c'est pas pour ça. Dieu merci, je n'ai pas été. Je parlerai de là. J'aurais pas appris. Je n'aurais pas connu une culture importante. Parce que je me suis rendu compte tout de même que lorsque je vais aux États-Unis et que je discute avec des jeunes gens autour de moi, ils ne connaissent pas leur culture. Ils connaissent ce qu'il y a d'immédiat. Bon, quand on parle d'auteur, on tombe plus facilement sur Harold Robbins que sur John Dos Passos. Et ça, John Dos Passos, ils savent même pas qui c'est, puisque un libraire très important aux États-Unis, quand j'ai voulu acheter Dos Passos dans la langue originale, il m'a dit qu'est-ce que c'est? Il m'a dit c'est un Sud-Américain ou un Espagnol? Il m'a fait je dis tu dois être d'origine portugaise, mais c'est un géant de la littérature américaine. Ah, il me dit alors c'est un classique. J'ai dit oui, c'est on peut appeler ça un classique. Il m'a dit c'est le rayon qui est là-bas, et il y avait tous les Harold Robbins. Alors, c'est pas. Je n'aurais pas écrit les chansons que j'ai écrites. J'aurais peut-être fait le plus gros succès. Parce que quand on écrit un petit peu basique, sans trop de recherche, avec des phrases qui sont souvent comme du papier peint, que l'on prend ici et que l'on colle là, j'aurais pas fait ce que j'ai fait là. Je serais probablement aussi fier que je ne le suis ici. Mais à choisir, je préfère avoir été celui qui a lu Victor Hugo, Aristophane. Mon pays, c'est aussi la langue française. J'ai reçu une fois une lettre d'un monsieur qui n'était pas d'accord avec moi et qui disait qu'on ne peut pas dire que la langue française est un pays. Je l'ai laissé dire, je ne le réponds pas dans ces cas-là, mais dernièrement, je ne me souviens pas, mais il y a un écrivain qui a dit que son pays, c'est la langue française, un écrivain bien français, okay, et j'étais
Renan,
ravi.
Renan a dit, de toute façon, le pays, c'est la langue.
Eh ben voilà.
Donc.
On peut pas aller. Je ne le savais pas, mais en fait, je pense que le monsieur qui m'avait écrit est un imbécile. Voilà, du tout.
Comment vous découvrez la lecture, le plaisir de la lecture? Parce que vous êtes un grand liseur.
Je n'ai pas découvert le plaisir de la lecture, je me suis obligé à lire. Je me suis obligé à lire pour ne pas paraître totalement stupide quand je me trouvais dans une réunion de gens qui étaient plus instruits que moi.
Mais avant, à l'école quand même, vous découvrez les livres, la poésie
à l'école. J'ai découvert ce qu'on découvre jusqu'à 10, 11 ans. J'ai rien découvert d'autre. Bon, quelques fables de La Fontaine, des poèmes de Victor Hugo.
Quel souvenir vous avez de la rue? Vous êtes un gamin qui est souvent dans la rue.
Oui, la rue Saint-Jacques,
la
rue des écoles.
Quel parfum a la rue à cette époque?
C'est le parfum de liberté totale, parce qu'en plus, on ne se disait pas qu'il va y avoir des pédophiles dans la rue, on n'avait rien de tout ça, on nous laissait partir. Moi, j'étais toujours sur les patins à roulettes, j'ai passé mon enfance sur patins à roulettes. Ce qui fait que, comme à Saint-Germain-des-Prés, dans la rue, le marché on vendait des choses beaucoup moins chères que du côté de la rue Saint-Jacques, faut bien le dire, et que là, il y avait des avantages. Vous aviez 13 œufs la douzaine. Pour un œuf de plus, on leur fait 2 kilomètres. Alors mes parents m'envoyaient avec un sac et je traversais, donc j'allais de la rue Saint-Jacques jusqu'à la rue de Bussy. Voilà, c'est la rue de Bussy, où je faisais le marché pour la famille et je revenais, patin roulette. Et quand je faisais des contrats, quand je travaillais, je faisais Paris sur patin roulette. Donc pour moi, Paris, c'était la liberté. Et en plus, j'avais un moyen de transport. C'est ça qui est formidable. Et j'ai connu tous les mômes qu'il y avait autour. Il y en a un seul que j'ai connu plus longtemps que les autres. Il était fils de concierge au coin de la rue. Là où il y a le magasin de jouets, Faubourg Saint-Honoré, le nain, quelque chose.
Oui.
Et ensuite, je l'ai trouvé trompettiste dans les orchestres pour mes enregistrements. Il s'appelait Yves Lalouette. Mais sinon, je n'ai pas souvenir de plus personne. J'ai des noms qui me reviennent de temps en temps, comme ça.
C'est encore des moments où la rue à Paris est très populaire, où maintenant Paris est une ville très bourgeoise. Là, il y a encore le Paris populaire.
Nous vivions dans un quartier bourgeois, quand même. Hein. Faubourg Saint-Honoré, Saint-Germain, oui. Rue des Écoles, c'était bourgeois.
Ça allait. À un moment, vous installez Place des Vosges ?
Non, à côté. Place des Vosges, c'était trop chic pour nous. C'est rue de Béarn, ou impasse Béarn, ou rue de Béarn. Et je me souviens très bien. On avait un plafond très bas, très très bas. Ça devait être un premier étage avec un...
Qu'ils avaient rogné au milieu.
Oui, sûrement, il y a quelque chose. C'est un quartier que j'aimais bien aussi. Là aussi, je partais à pied ou à patin roulette, plus loin. J'allais dans le quartier juif, parce que c'était vivant. C'était pas bourgeois, c'était l'arrivée de gens qui parlaient pas le français la plupart du temps. Et puis c'était là où on pouvait marchander. J'allais par exemple au carreau du Temple. Là, pour le prix d'une paire de chaussures en ville, je revenais avec 2 paires de chaussures. On discutait, on marchandait. Et on sentait que les gens avaient envie de marchander, qu'ils auraient été déçus si on ne marchandait pas.
C'était vivant, c'était une chose vivante.
Ah oui, c'était très vivant. Et c'est là où j'ai appris ce qu'était la communauté juive. Et je me suis rendu compte qu'on se ressemblait étonnamment quand même. Qu'on avait eu... Là, il n'y avait pas encore eu la Shoah, c'était avant. Mais quand même, ils arrivaient de pays où il y avait eu des pogroms. Et que le pogrom nous faisait mal. Parce que avant le génocide, il y a eu les pogroms aussi pour les Arméniens. C'est une communauté que j'ai fréquentée, que je fréquente toujours, quoi.
Musicalement, vous aviez des choses en commun à travers la musique russe de votre père.
Ah ben non, mais avec mon père, on connaissait déjà la musique juive, la musique eshkénaze. Hein, on ne savait même pas qu'il existait des séfarades. C'était les eshkénazes. Les juifs, pour nous, c'était les eshkénazes. C'est comme un arménien de la part turque n'est pas du tout un arménien de la part russe.
Sans parler des Arméniens.
Même la langue, ils ne la comprennent pas.
Sans parler des Arméniens d'Irak, ou de Jérusalem.
De Turquie,
ou d'Iran.
Les Arméniens d'Iran et les Arméniens de Géorgie parlent le même arménien que l'Arménie, pas les autres. Le président Levon Petrosian était à Paris et on avait la salle du Palais des Congrès où les Arméniens sont venus pour écouter son discours. Et j'ai dit, il faudrait peut-être qu'il y ait un traducteur. Et on m'a dit, mais tu rigoles, on m'a dit, tout le monde comprend l'arménien. J'ai dit, ça, c'est pas sûr. Eh bien, 75% des gens n'ont pas compris ce que disait le président. Parce que le président parlait l'arménien d'Arménie, et qu'en France, la majorité sont des Arméniens qui viennent de Turquie.
Quand ils ne sont pas turcophones, il y a des Arméniens qui ne sont que turcophones.
Ah bah oui, j'avais un saxophoniste qui ne parlait pas un mot d'arménien. Je lui dis que je l'appelais Théoto, le turc, c'est normal, tout ça. Oui, mais oui, ce qu'on appelle les gens d'Ankara, les Ankaraleux, ils parlaient... Bon, pensez que quand ils sont venus en France et qu'à la préfecture de police, on leur demandait leur nationalité, ils répondaient « Arménie catholique ». Bon, Arménie, ça veut dire arménien en turc. Et catholique, c'est très important. C'est-à-dire que c'était presque leur religion qui était leur identité.
Leur passeport, oui.
Toute toutes les gares se ressemblent, tous les ports crèvent d'ennui, toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini. Dans la cohue de l'existence se trouve toujours un passant qui n'a pas eu de ligne de chance et qui devint un émigrant. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons. Il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension. À chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regardez-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt. Le monde entier file la haine, le ciel là-haut n'y comprend rien. Les heureux forment une chaîne en se tenant par la main. Pas moyen d'entrer dans la danse, le calendrier a son clan. Si tu n'as pas de ligne de chance, tu resteras un émigrant.
Charles Aznavour, votre mère, hein, qui a... c'est un beau personnage, puisque bon, elle, c'est elle qui fait... On devine entre les lignes que c'est plutôt elle qui fait vivre la famille que votre père, qu'elle gagne l'argent, que lui le dépense.
Non, mon père.
Elle tient les cordons de la bourse, voilà. En tout cas.
Mais mon père lui donnait. Oui. Mon père était fêtard. Il aimait la fête. Et il connaissait ses défauts. Donc, de ce fait, il avait tout mis entre les mains de son épouse. C'est elle qui gardait l'argent. C'est elle qui donnait l'argent à mon père.
Et c'est à l'intérieur de la maison, c'est la femme qui
gouverne. C'est elle qui s'occupait de tout. C'est elle qui cachait l'argent pour les mauvais jours. Et que, comme je raconte, elle faisait semblant d'aller l'emprunter à une amie, et elle revenait en disant « Oui, mais il faut lui rendre absolument avant la fin du mois parce qu'elle doit payer son loyer. » Alors, mais nous, tout le monde le savait. C'est le secret de Polichinelle, on le savait tous.
Et en même temps, elle joue du piano et elle écrit aussi pour elle.
Oui,
alors, vous êtes une famille très modeste, mais il y a un piano à la maison.
Ah, oui, il y a des instruments, toujours. Oui, on est modeste, mais si vous voulez,
vous êtes un peu des bohèmes, vous êtes
plus des
bohèmes que des pauvres.
On aime bien vivre un peu plus richement que modestement.
Oui.
Alors, on va au-delà de ce qu'on a. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. Faut aller le chercher, faut aller le trouver, parce que c'est l'argent qui manque. Alors, bien sûr, le monde piété aide beaucoup. On a fait beaucoup d'allers-retours avec la petite rue à côté de la place Clichy, là-bas, où il y a un monde piété. Beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Au clou aussi, on y appelait ça la matante, mon clou. Avec un peu, au début, avec un sentiment de honte, et puis bon, la suite, ma voix, on s'est habitué. Parce qu'on allait aller chercher. Après, dès qu'on avait 4 sous, on allait rechercher ce qu'on avait engagé. Je sais pas si ça existe toujours.
Oh oui.
La dernière chose qu'on a engagée, c'était une voiture qu'on avait achetée, que nous avions achetée, qui était un Renault G7, je crois, oui. Comme les taxis, vous savez, marche-pied très haut, on pouvait rentrer avec un chapeau-melon dedans. Et on l'avait acheté, mais personne ne savait conduire dans la maison. Seulement, on avait un cousin qui avait son permis de conduire.
C'est un peu une ambiance de comédie musicale, je trouve,
cette famille. Oui, parce qu'en plus, ça chantait, ça dansait. Oui. Alors, c'est ce cousin qui, enfin, les dimanches, on prenait la voiture, on allait faire un pique-nique, souvent à Meudon, il y avait le bois de Meudon, où, c'est pas les bords de la Marne, les bords de la Marne, c'est plus tard, quand nous étions jeunes et qu'on pouvait y aller pour danser, etc. Mais sinon, c'était les bois, comme le bois de Meudon, le bois de Cucufa, etc., etc. Et où, en plus, il y avait des garden parties de partis politiques. Mm-hmm. Le parti politique, c'était le parti communiste, bien sûr. Étant donné que l'Arménie était communiste, on se devait d'être comme l'Arménie, on était communiste.
Un petit peu tous les immigrés à cette époque sont en fait très souvent liés. Le Marx, ça va être la même chose. René Lebas, ça va
Russes.
Être la même chose. Oui, sauf les Russes blancs.
Les Russes.
Sauf les Russes blancs, bien sûr.
Non, mais en fait, je me demande si je ne parle pas de ma mère, mais si mon père n'aurait pas été comme les Russes blancs, si l'Arménie n'avait pas été soviétique. Parce qu'en même temps, on savait qu'en Arménie soviétique, comme on dit en Chine, ils avaient tous leur bol de riz.
Et vous avez votre grand-père paternel,
oui, lui, il était pas drôle.
Qui débarque, qui lui a vu les excès ou a déjà compris que c'est en train de mal se passer.
Je ne sais pas s'il l'a vu. On l'a un petit peu bousculé parce que il faisait partie, et travaillant pour le gouverneur comme cuisinier, il faisait partie des bourgeois, disons. Mais mon père aussi l'avait vu. Mais vous savez, on était de mauvaise foi. On était de mauvaise foi, c'était l'armée. Pourvu que l'Arménie soit bien, pourvu que les Arméniens n'aient pas trop de problèmes, tout allait bien. On a fermé les yeux, comme beaucoup de gens, jusqu'au moment où Méline Emanouchian nous a fait savoir, parce qu'elle était au Parlement là-bas, 14 ans elle est restée au Parlement, nous a fait savoir que ça n'était pas du tout, que le paradis soviétique ressemblait beaucoup plus à un enfer.
C'est après la guerre
ou... Oui, on a fait marche arrière. Là. Non, mais déjà pendant la guerre, au moment du pacte germano-soviétique, ça avait choqué mon père et ma mère.
Alors, votre famille est amie avec ce couple héroïque des Manouchian.
Ils étaient membres de la JAF, la Jeunesse Arménienne de France. Mmh. Et ma sœur aussi, pas moi. Moi, j'étais membre de rien. Et c'est là que Méliné était secrétaire de l'association. Mes parents et eux ont sympathisé. Et quand on sympathisait, c'était venez à la maison, hein, c'est ça, toujours. Et comme en plus, c'était deux orphelins. Ce sont deux orphelins qui se sont réunis ensemble. Ils n'avaient pas, à proprement parler, de chez eux. Je ne sais pas où ils vivaient et comment ils vivaient. Mais ils étaient très sympathiques. Et moi, il était un très bon joueur d'échecs. Et il me donnait des cours d'échecs. J'ai donc appris à jouer aux échecs avec Misak Manouchian.
Il prenait des handicaps ? Comment il vous
apprenait ? Non, il m'expliquait. Oui. Il m'expliquait simplement. Et il disait, tu aurais mieux fait d'aller par là que d'aller par là, par exemple. Voilà. Mais il y a eu d'autres couples héroïques.
Oui.
Il y avait un couple de professeurs de mathématiques qui habitaient Belleville. Elle s'appelait Lass. Je ne me souviens plus de leur nom. Eux aussi ont été fusillés. Il y en a beaucoup qui ont été fusillés. Les Arméniens ont payé leur tribut au pays d'adoption.
L'impôt du sang.
Voilà, mon père s'est engagé volontaire. Il aurait pu ne pas revenir. Il est revenu, on est ravis. Mais, et beaucoup d'autres. Dans le camp de Sept-Fonds, il n'y avait que les engagés volontaires. Dans ces engagés volontaires, il y avait des Juifs, des Russes et des Arméniens. Les Russes étaient tous ceux qui commandaient, parce que c'est les seuls qui avaient déjà fait l'armée, qui avaient fait partie de l'armée rouge, de l'armée tsariste. Et puis mon père, qui était le seul qui savait faire les cuisines, était aux cuisines. Il avait emporté son instrument. Et quand ils avaient un moment de liberté, ils jouaient, ils chantaient.
Un luth à manches longues, c'est ça.
Oui, oui, de tar, oui. J'en parlais avec Robert Hossein hier, justement. J'ai dit, est-ce que tu as toujours le tar de ton père? Parce que son père jouait du tar mieux que mon père. Mais lui, c'était un vrai musicien. Mon père, c'était un amateur pour le tar. Et il m'a dit, oui, je l'ai, je voudrais en faire cadeau au gouvernement iranien. Et ben, j'ai dit, ben, je peux peut-être t'arranger ça. Mais c'est vrai, moi, j'ai toujours le tar de mon père. Dans tous les films où Gervais avait la musique, où il y a une chose orientale, comme dans Marco Polo, etc., etc., quand on entend tous les trucs, c'est mon père qui joue. Bon, il le faisait bien parce qu'il n'avait personne d'autre pour. Il le faisait très très bien. Mon père était très musicien, tout en n'ayant rien appris. C'était un autodidacte total.
Mais donc vous êtes né avec la cadence, le rythme,
dans les
oreilles.
La frappe. Ça, c'était. Non, mais j'ai vécu dans une famille où la poésie avait sa place, la musique, la danse, les instruments, la folie. La bohème, une bohème orientalo-française, dirons-nous, qui est un petit peu différente. Parce que la bohème orientale, c'est pas une famille qui va d'un appartement à l'autre, ou des gens. C'est pas une famille, déjà, pour commencer. Ce sont des couples. La bohème orientale, c'est toute la famille. C'est ça qui est intéressant.
Comment vous vivez le passage entre la culture dans l'appartement, ou je ne sais pas, en quelle langue, quelle est la langue usuelle?
C'était l'arménien pour commencer, c'est devenu le français.
Et c'est devenu le français.
C'est amusant parce que le passage s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. Nous parlions moins bien l'arménien que nos parents, ce qui fait que le mot qui nous manquait en arménien, boum, il partait en français, automatiquement. Et puis petit à petit, mes parents ont fait de même. Et on a fini par parler français aussi à la maison. Parfois, on parlait tout en français, parfois, on parlait tout en arménien. Mais avec ma grande fille qui va aux États-Unis, quand on se téléphone, c'est amusant parce qu'on parle trois langues, mais simultanément, comme ça, sans faire attention. Il y a un mot arménien qui passe, deux mots d'anglais, trois mots de français, c'est très amusant. Et les gens nous regardent surpris, car eux ne le font pas. Par exemple, les Italiens des États-Unis ne parlent plus italien, ne parlent qu'anglais. Eux ne font pas le mélange. Nous, on fait le mélange total. Et j'espère que mes enfants vont continuer à faire des mélanges.
Et des petites tours de Babel individuelles.
Oui. Par exemple, ma toute petite fille, elle a 2 ans, elle est moitié maghrébine, et moitié quart arménienne et quart suédoise. Bon. Elle est déjà inscrite dans une école où elle va apprendre l'anglais et l'allemand. Donc elle sera l'anglais, l'allemand et le français. Et j'ai dit dernièrement, n'oubliez pas qu'il faut qu'elle apprenne aussi l'arabe, qui est la langue de son père, dont le père ne parle pas l'arabe du tout. C'est ça. Ce sont des enfants qui sont nés ici et qui ont... Beaucoup d'Arméniens ont fait la même chose, ils ont oublié la langue. Et je dis, moi, ce serait dommage parce que c'est une langue importante. L'anglais, c'est important. Le français pour la littérature, pour tout le reste, c'est formidable. Et puis l'arabe, ça sera très bien aussi. Je suis pour que les enfants apprennent 4 à 5 langues. Et on apprend 5 langues plus vite que 1 plus 1 plus 1.
Est-ce que les sentiments sont différents quand on les exprime dans une langue ou dans une autre?
Oui.
Alors vous avez enregistré dans au moins 9 langues?
Non, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Ça, c'est la base. Et puis j'ai fait une face en napolitain qui n'est pas de l'italien, il ne faut pas l'oublier. Okay. J'ai chanté un quart de duo avec ma fille en arménien et j'ai enregistré une chanson en russe, une traduction de mes chansons. Voilà, ça fait 5 langues et puis 3 approches.
Ce passage enfant d'une langue à l'autre vous a aidé
M'a aidé, oui, parce que ce que je faisais quand j'enregistrais, bon, j'enregistrais, c'était phonétique. Alors ce que je faisais, j'apprenais à lire Je lis l'allemand couramment. Je ne parle pas l'allemand du tout. Je peux commander mon repas et demander ce que je veux pour la chambre. Mais je lis l'allemand couramment. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'écrire phonétiquement la chanson que je vais enregistrer en allemand. Et ça, c'était important pour moi. Je ne pourrais pas faire ça avec le russe ou le grec, parce que les lettres ne sont pas les mêmes lettres.
Le contact avec l'école, c'est une chose... qui vous pèse, l'école, ou au contraire, vous êtes content d'apprendre?
Non, moi, c'était le contraire. J'aurais adoré faire des études très longues. D'ailleurs, j'ai un fils qui me ressemble. C'est le seul. Mais non, j'aimais beaucoup. En plus, je suis tombé sur des instituteurs. J'ai eu vraiment la chance de tomber sur des gens formidables. L'époque des études primaires a donné de très très grands instituteurs, des gens extraordinaires, des gens qui prenaient soin de vous, des maîtresses d'école qui avaient des chouchous. Bon, moi j'étais le chouchou d'une maîtresse d'école qui s'appelait Mademoiselle Jeanne, rue Gilles-Cœur, et j'ai appris que des années plus tard, elle avait eu pour chouchou Claude Brasseur, dans la même école.
Elle les choisissait?
Je sais pas. Peut-être qu'elle choisissait ceux qui récitaient bien. Il y avait peut-être quelque chose comme ça. Et puis, monsieur et madame Guette, qui tenaient l'école, étaient des gens sublimes. C'est eux qui ont dit à mon père, votre fils, il sera probablement comédien. Et de là, ils m'ont fait apprendre toutes les fables de La Fontaine. Et ils me poussaient à les jouer, et non pas à les réciter. Vous savez qu'on récite du palais d'argent de lapin, peut-être un bon matin, ça, hein, et on finit la dernière ligne. J'attends les mains de Hein, Croquet-Alain et l'autre, bon, et puis, etc. Là, il dit, et à la fin, on dit La Fontaine. Au lieu de dire dès le début, ça, c'est tous les enfants. Bon, j'avais appris à ne pas faire ça. Il me poussait à ça. Et par la suite, quand je suis rentré à l'école du spectacle, rue Cardinal Lemont, je suis encore une fois tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, qui était Raymond Rognoni, qui était sociétaire de la Comédie Française, qui jouait les rondeurs. Et lui aussi m'a été d'une grande aide. Parce que par la suite, j'ai retrouvé au centre Eugène Flachat, qui était l'ancêtre de l'école Rue Blanche.
Vous faites vos débuts sur scène à l'âge de 3 ans ?
9 ans, oh oui, 3 ans, ça compte pas.
Ah bah, quand même, les débuts, non, c'est les débuts.
C'est pas un début, c'est l'apparition, là. Faut faire attention, là, les mots, la nuance des mots, c'est très important.
Oui.
L'apparition. Mais ça, c'est ce que tous les enfants font. Vous allez dans un bal, il y a toujours un enfant qui se plante et qui chante une chanson ou qui dit un poème.
En général, quand ils arrivent, ils oublient la chanson, ils osent plus rien dire. Vous, vous y allez de votre petite récitation.
Non, non, j'en ai vu des enfants qui n'oublient pas, ils viennent comme ça, et même les parents font « Oui, tu vas la dire, la petite histoire, là, gna, gna, bon. »
Là, vous n'avez rien demandé.
Ah non, moi, j'ai vu un rideau, je suis passé devant, j'ai vu du monde, et puis j'ai raconté mon histoire. Je m'en souviens physiquement. Je me vois le faire, mais je ne me souviens de rien d'autre. Je ne sais pas ce que j'ai raconté, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si les applaudissements m'ont fait plaisir, c'est rien de tout ça. Je vois seulement comment j'ai ouvert ce rideau et je suis rentré sur scène.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon et Mathieu Maroudin, réalisation Manouchak Fachaï et Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.